d'autres vont se sentir plus à l'aise avec l'aroma. Donc, ils vont commencer toujours par se servir de cette thérapeutique qui leur plaît le mieux. Après, il faut quand même savoir que si vous voulez vraiment faire des traitements, je dirais, sur du psychosomatique, et ça intervient même dans les poulets, eh bien, vous aurez toujours de meilleurs résultats avec l'homéo ou les huiles essentielles qu'avec la phyto. Si vous voulez faire des traitements purement physiques, la phyto, dans les domaines de prédilection de chaque plante, sera très efficace. Mais avec le corollaire que vous devez faire attention aux plantes que vous utilisez, puisqu'il y en a qui sont interdites, ou alors il faut les noter nulle part. Les huiles essentielles, c'est pareil, il y a des risques quand même assez importants, donc vous ne pouvez pas utiliser ça sur des poussins, par exemple, vous n'allez pas utiliser des huiles essentielles, ils seront beaucoup trop fragiles. Hein. Et donc finalement, l'homéopathie, vous allez avoir l'avantage que vous aurez, vous pouvez avoir des effets secondaires en homéo, mais il faut déjà s'en occuper. Il y a quelques remèdes en homéo qui sont dangereux, mais bon, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler. Et par ailleurs, l'homéopathie, il faut maîtriser un petit peu. C'est un peu un... L'homéopathie, ça ne s'apprend pas en une demi-journée. Là, je vais vous donner des notions, que vous sachiez au moins ce que c'est, et pourquoi on appelle ça homéopathie, et pas phytothérapie, et pas... Voilà. Donc, après, les choix, c'est vraiment... moi, ça m'arrive d'utiliser deux thérapeutiques, ou trois, de dire, ben là, je vais faire de l'ostéo, je vous en ai parlé en préambule ce matin, et puis je vais rajouter de l'homéo, où je vais utiliser des huiles essentielles et je vais donner un traitement homéopathique sur un mois. Et je vais faire des huiles essentielles que 5 jours ou 3 jours. Vous voyez, là, le gars qui vient de m'appeler, là, je soigne sa vache par téléphone depuis 3 jours, sur un mauvais diagnostic d'un confrère en plus. Et bien là, finalement, je sais, elle va mieux, mais il lui manque un petit coup de pouce. Je lui ai dit de lui faire un massage à l'huile, carrément. Donc, il a fallu que je lui explique pendant 10 minutes où je trouvais les côtes. Mais enfin, à part ça, ça va. Donc, vous voyez, si, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Vous m'avez entendu parler. Hein. Les côtes, oui, parce qu'en fait, je lui demandais de masser entre la dernière côte et le... Donc, voilà, ici, quoi. Et il ne comprenait pas si la dernière était devant ou si elle était derrière. Donc, voilà.
C'est parce qu'il a vite fait regarder ses vêtements.
C'est précis à utiliser.
Disons que les huiles essentielles, il y a beaucoup plus de risques de toxicité et d'effets secondaires. Et donc, c'est quand même plus délicat à manipuler, on va dire, quand on ne les connaît pas, que les plantes, déjà.
Parce que les phyto, on n'est pas à quelques grammes près, j'allais dire, quand on...
Non, les phyto, vous n'êtes pas à quelques grammes près.
Que les huiles essentielles, c'est réellement...
À moins que vous utilisiez de la ciguë, ou à un gramme près, vous ne pouvez pas, hein, voilà. Mais sinon, non, si vous mettez 150 grammes pour une tonne, ou si vous mettez 125 grammes, ou 200 grammes, ça ne changera rien, quoi. Par contre, les huiles essentielles, oui, ça va changer tout de suite la face du monde. Hein. Donc, je ne sais pas, toi, tu connais bien les huiles essentielles, puisque tu as fait 2 jours de formation.
Oui, il est dit que le pouvoir d'huile essentielle,
c'est profond.
C'est,
hein.
Pour vous en donner un équivalent, c'est une goutte d'huile essentielle en pouvoir soignant, c'est toujours un petit peu de la fusion.
Allez.
10 litres de quoi ?
La fusion.
Bon, ça fait comme l'homéopathie, quand on a les granules, on n'est pas une granule près.
Non, on n'est pas une granule près. On n'est pas une granule près, mais bon, après, ça ne sert à rien non plus.
Oui, non, mais là, ça ne sert à rien, mais l'erreur de...
Voilà, on n'a pas cette erreur de dosage, effectivement, sur un
jour.
Sur une quantité d'aliments, vous n'aurez pas une erreur de dosage terrible avec la phyto. Ouais, vous rajoutiez vraiment des seaux entiers. Mais effectivement, avec une huile essentielle, ça se dose à la goutte. Donc, c'est... Et donc, c'est vrai que pour des bovins, par exemple, ou des porcs encore, ça va, mais pour des volailles, ça devient très, très précis, hein, surtout sur des petits effectifs comme les vôtres. Alors donc, résumé, pour ne pas laisser notre ami la frustrer, parce que lui, il a une problématique, donc moi, je pense qu'il faut effectivement que tu dectoras tes résultats de mycotoxine, c'est positif ou c'est négatif. C'est positif, ben là, obligatoirement, ton diagnostic, il est à 3/4 passé posé. C'est négatif. T'occupe de tes facteurs antinutritionnels, c'est éventuellement. Est-ce qu'il existe des labos où on peut faire analyser ça?
Oui, mais je dirais que c'est, ça coûterait trop cher. Bon, alors pour moi, c'est plus un problème d'équilibre.
Voilà, donc il faut revoir son... Oui, voilà,
son les dommages sont irréversibles, si j'ai bien compris. C'est ça
non. Oui, ben après, tes volailles, tu vas les garder quoi, 16 semaines, donc oui, tu n'auras pas le temps de les voilà. À moins que tu veuilles faire des
mais cons, disons que si c'est négatif pour les mycotoxines, déjà, c'est rassurant, parce qu'au moins, tu sauras que le prochain, tu feras attention à ton alimentation de façon...
Je préférerais que ce soit les mycotoxines.
Parce que tu aurais un diagnostic.
Dans le reste, les matières premières que j'ai à ma disposition et que je produis...
Mais t'as, alors, déjà, t'as déjà amené tes volailles au bout avec
l'alimentation.
Ah oui, non, mais ça fait 4-5 ans, ça ne pose pas de soucis. Voilà. Là, c'est un problème qui arrive cette année sur le premier
mouvement. Bon, alors écoutez, je ne veux pas être une rabat-joie, mais je reviens sur mon. On va passer à autre chose, parce que sinon, on va passer l'après-midi à ça et on tourne en rond, et moi, j'aime pas trop ce genre de choses. Donc. Voilà, je te donnerai tout à l'heure en numéro un programme. Plus, hein, éventuellement, tu me repasseras un mail et puis on en rediscutera par mail ou par téléphone. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Juste pour précision avec le thym qu'on a bu ce matin, on peut l'incorporer, c'est quoi? C'est séché comme les orties ou en décoction ou infusion?
Alors ça dépendra de ce que tu veux faire, si tu veux le passer en liquide, si tu veux le passer en solide.
Je veux dire, c'est plus efficace comment?
Ce sera plus efficace à mon avis en décoction, enfin en infusion, si tu veux en faire un drainage, un nettoyage, mais il faut faire quand même attention, c'est une plante qui contient des huiles essentielles, donc ça il faut quand même pas y aller avec des trop grandes quantités. Le romarin, c'est pareil. Si vous en donnez un peu, c'est bon pour le foie, mais si vous en donnez trop, c'est toxique pour le foie. Vous voyez, les plantes qui contiennent des huiles essentielles sont beaucoup plus difficiles à manier que les plantes qui n'en contiennent pas. Toutes les plantes ne contiennent pas des huiles essentielles. Il y a qu'à peu près 2000 à 2500 plantes qui contiennent des huiles essentielles sur les millions de plantes qui existent sur la Terre. Vous voyez, donc il faut quand même faire attention avec ça. Alors, dans les campagnes ardennaises, quand j'étais gamine, on donnait du thym et du romarin aux lapins pour les finir, pour leur donner du goût. Hein? Si, c'est vrai. On donnait du goût à la chair. Et c'est c'est un des arguments qu'utilise une des vétos que je connais sur la Bretagne, qui s'occupe des champs d'agriculture bretonne, pour essayer d'interdire les huiles essentielles en élevage de porc. C'est que ça donne du goût aux carcasses. Mais au point qu'on les sent à l'abattoir. Il faut déjà y aller. Hein. À mon avis, à moins de donner un bain au porc, l'huile essentielle, je ne vois pas trop comment on pourrait faire. Bon, alors, on va reparler un peu de Gémeaux, là, parce que là, l'heure est presque passée et personne ne pose de questions.
Bah, j'ai une question. Ah. Ça serait parce qu'on utilise de l'origan et du girofle.
Oui.
Mais c'est un mélange acheté et je cherche partout un dosage en eau de boisson de volaille en huile essentielle pour l'origan. Je ne sais pas si vous avez une piste.
Bah, en fait, je dose l'origan exactement comme les autres huiles essentielles, comme je l'ai donné ce matin.
D'accord. Voilà. Donc, c'était, je sais.
Donc, commence par une plus petite quantité. Commence plutôt par moins. Et puis, si tu vois comment ça réagit, tu peux augmenter.
Bah, j'ai des lots de 500, donc j'aime pas trop prendre de risques.
Ouais. Mais le dosage, c'est celui que je t'ai donné ce matin.
Donc, 1 millilitre.
J'avais donné des 5 ml, des problèmes digestifs. C'était bien après, hein, c'était dans l'aroma. Hein, une des dernières choses que je vous ai données. Là et là. Là.
Et donc, je mets ça dans combien de litres d'eau, en fait?
C'est toujours 100 ml pour 1000 litres.
100 ml du mélange pour 1000 litres.
Alors, le problème, c'est que là, tu es sur un mélange gras pour mettre dans l'eau.
Oui, mais je vais faire avec la poudre de lait parce que le produit que j'achète, c'est du lactose.
Ah, bah donc, voilà.
Ça sert à quoi l'origan?
Alors, toi, tu l'achètes au comptoir médical des plantes, sans doute, non?
Le comptoir des plantes.
Comptoir des plantes, oui, c'est ça. Alors, la gémothérapie, donc je vous en ai parlé ce matin, donc c'est l'utilisation des bourgeons et des jeunes pousses pour masser dans de la glycérine diluée au dixième.
Il y a des plumes qui se retrouvent, c'est un peu qui rentre le cou, dès qu'on a quelques-uns comme ça, qui donnent ça, et puis ça fait vite, quand on n'a aucune perte, on a le chatut.
C'est le mot de pâte, nous, qui vient.
L'origan et quoi, je crois.
Et le chiffon.
Alors donc maintenant on va arriver à la partie homéopathie. On va parler un peu d'homéopathie maintenant. Donc on ne pourra certainement pas aujourd'hui faire de vous des homéopathes. Rassurez-vous. Il faut un petit peu plus étudier que ça. De toute façon, vous êtes déjà tous vous faites déjà toujours tous des cours très rapides. Vous êtes toujours tous habitués à faire des formations accélérées. Hein, sachez que certaines écoles d'homéopathie pour les vétos ou pour les humains, certaines travaillent sur plusieurs années. Quand on fait en plusieurs mois, on est déjà content. Les druides, parce que ici on n'est pas en Bretagne. En Bretagne, il y avait des druides. Pour devenir druide, il fallait 30 ans. Donc ça va. Si vous mettez que quelques semaines ou même un an pour y arriver, vous avez encore gagné quand même 29 ans. Hein, donc voilà, maintenant, on va un peu parler de l'homéopathie. Alors, contrairement à ce qu'on croit, l'homéopathie ne se sert pas juste des plantes. Ça, c'est déjà la première chose à savoir. Quand je vais dans une exploitation où je mets les pieds pour la première fois, on me dit, ah oui, je fais de l'homéopathie et j'utilise des plantes. Alors, j'attends de voir un peu ce qui va sortir du chapeau. Soit ils font de la phyto, soit ils font effectivement de l'homéo, mais dans l'homéo, il n'y a pas que des plantes. Donc, et puis, on ne les utilise pas du tout de la même manière. C'est pour ça que je vous ai dit, l'homéopathie, c'est particulier. C'est pour ça que je vous ai d'abord parlé de la phyto et de l'aroma, qui reste pour vous accessible au niveau intellectuel, parce qu'on pèse des choses, on pèse des milligrammes, on pèse des millilitres, on a un symptôme, on utilise tel machin, voilà. On reste dans quelque chose qu'on est habitué à utiliser. L'homéopathie, on va utiliser des plantes, des animaux, et des parties d'animaux, vous voyez, des venins, même des minéraux ou des métaux, qu'on va diluer et dynamiser, selon des critères qui seront définis par le principe de la similitude. Alors là déjà, vous avez déjà trois mots là, diluer, dynamiser et similitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous choisissez bien, parce que vous avez bien intégré la technique de l'homéopathie, et parce que comme moi, enfin moi je ne suis pas une super homéopathe, hein, je me débrouille, mais je suis encore loin d'être arrivée au top, mais si vous aimez ça, et si vous appréhendez cette technique-là, de façon vraiment avec passion et avec beaucoup d'intérêt, c'est avec cette technique-là que vous aurez les meilleurs résultats sur vos effectifs. D'abord, ce sera celle qui sera la plus facile à utiliser, parce que vous allez avoir des granules que vous pourrez mettre soit en direct, soit diluées dans de l'eau, et vous ne serez jamais sur des supports gras, des supports de la poudre, vous ne serez pas... Voilà. Et vous allez vraiment avoir des très très bons résultats. Et surtout sur des choses très spectaculaires comme des syndromes de fièvre par exemple, des diarrhées massives, des problèmes comme celui que tu m'évoques, on pourra passer la bascule quoi, parce qu'on va aller donner des informations à l'organisme. Le tout c'est qu'on ait encore des animaux qui soient suffisamment toniques pour réagir au traitement.
Donc il faut s'en apercevoir très peu.
Ben, disons que si tu veux, quand tu commences à faire de l'homéopathie, tu finis par devenir un clinicien plus aguerri parce que tu vas observer des symptômes auxquels tu n'aurais pas pensé si tu n'en avais pas fait.
On peut aussi agir dans l'urgence.
On peut, ça marche super bien. Dans l'urgence, c'est spectaculaire. La lavage du bus, là, tu ne ruminais plus, elle a pris que ça. Hein.
Les lavages, c'est comme les plantes, c'est une observation. Moi, tous les jours, j'observe mes poules.
Bah voilà, c'est ça.
Ça fait un plaisir, c'est pas bien.
Ouais.
Moi aussi, je fais pareil avec ma femme, toujours que j'observe.
Quand il a dit qu'il observait ses poules, je me suis dit, il y en a un moment, ça ne va pas nous faire.
C'est lui ou il faut les
faire.
C'est
abîmé. Ça ne me servira pas.
C'est pour ça qu'il s'est mis en face, pour bien le faire. Alors voilà, donc le problème c'est que c'est un peu complexe, donc il ne faut pas vous sentir frustré si vous ne comprenez pas tout. Et vous voyez qu'on peut intervenir en aigu sur le choc, la fièvre, les diarrhées. On peut aussi intervenir en chronique sur la croissance, l'immunité, l'équilibre calcique, etc. Donc on peut inverser des courbes de croissance par exemple.
Ah,
une courbe de croissance qui s'effondre, on peut la récupérer en aidant l'animal avec l'homéo, quoi.
Et un animal qui prend trop, on voudrait ralentir un
peu. Ah, ça, par contre, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais, ça, c'est toujours plus difficile. Par exemple, me faire maigrir, moi, c'est plus difficile que de faire grossir quelqu'un d'autre.
Et on peut faire de l'homéopathie en préventif ?
Oui.
Ouais.
Quand vous dites dynamiser, ça se dit quoi ?
Eh bien, on va y aller.
Dynamiser, ouais.
Alors, afin de vous permettre de voir un peu plus clair dans tout ça, il faut savoir qu'on va aborder l'exposé selon quatre phases successives. On va parler un peu de la philosophie homéopathique. On va énoncer quelques principes actifs généraux et les moyens de fabrication, dont la dynamisation va en faire partie. On va parler un peu du patient et on va finir par vous parler de la consultation homéopathique. Alors, la consultation homéopathique, dans votre cas, c'est vous qui allez la faire.
C'est long, hein.
Ah, ça dépend. Ça dépend.
La question posée.
Oui, oui, mais ça dépend. Alors, la philosophie, l'homéopathie, c'est une thérapie réactionnelle. Alors, elle soigne le malade de l'intérieur vers l'extérieur en se servant de ses capacités à réagir, capacités réactionnelles. Le mec qui a un cancer au dernier stade, vous ne pourrez pas lui donner d'homéopathie. Vous pouvez, mais ça ne servira strictement à rien. Il ne peut plus réagir. Donc, c'est pour ça que c'est une des limites de l'homéopathie. Alors que l'allopathie, je vous ai expliqué ce matin, c'est une thérapeutique palliative. Elle se substitue aux mécanismes physiologiques déficients, où elle les empêche, où elle combat les agents infectieux en tentant de les éradiquer. Donc ça n'agit pas du tout de la même manière. L'homéo, elle va aller expliquer à l'organisme, quand, attention, là t'as tel problème, il faut que tu te battes, il faut que tu fasses ça et ça et ça. Alors que l'allopathie, elle va dire, oh mon petit chéri, ta thyroïde, elle est trop énervée, ben attends, on va te mettre un couvercle dessus, elle va moins agir. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
Donc il y en a un qui met et l'autre qui reçoit, c'est ça.
Alors en fait, c'est pas tout à fait. Je vous ai expliqué ce matin le coup du sparadrap sur la lampe du tableau de bord.
Sont les symptômes.
On éteint les symptômes avec l'allopathie. Alors qu'en homéopathie, on va se servir du symptôme pour le soutenir différemment et obliger l'organisme à réagir de lui-même. On cherche quelque part à recréer une maladie artificielle qui va dévier l'attention de l'organisme et qui va pouvoir... Bon, on ne va pas s'étendre trop là-dessus pour le moment. Je vous ai demandé d'écouter avec votre cœur. Il y a aussi des choses qu'il faut accepter sans nécessairement les comprendre, en tout cas dans un premier temps. Sinon, ce n'est pas une demi-journée qu'il va me falloir, c'est un an ou deux. Vous
donnez quand ?
Ça dépend ce qu'on paye.
Ouais. On
ne sait pas pourquoi je pense qu'il y a l'argent, mais bon. Le problème, c'est que j'ai une secrétaire à payer, moi, tu vois, c'est ça mon souci, en fait. Parce que ça m'est arrivé, ça fait plusieurs années, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour payer ma secrétaire. Donc, je travaille par passion. Donc, je suis comme tout le monde, je veux payer ma retraite et ma voiture et mon cabinet, mais j'ai travaillé plusieurs années sans avoir de salaire, uniquement pour payer une secrétaire. Donc, mais il faut quand même que je la paye, là, parce que sinon j'y arriverai plus. Hein. Et puis j'ai envie de lui donner du boulot, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui puisse gagner sa vie en même temps que moi. Donc l'inventeur de l'homéo, c'est lui, Hahnemann. Alors l'homéopathie, on pourrait penser que c'est une thérapie New Age, hein, quelqu'un qui s'est mis à planer dans un coin et qui s'est dit « Tiens, j'inventerai bien l'homéo ». Sauf que ce mec-là, c'était loin d'être un planeur. C'était plutôt un chieur de première, un intello, un mec qui parlait sept langues, qui était médecin à l'âge de 23 ans. Enfin, c'était vraiment une bête, quoi.
Pistonné.
Il a été pistonné, oui, sûrement. Bon, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Hein. Il est né en 1755, il est mort en 1843. Et sa tombe est à Paris. Donc, si un jour vous allez à Paris, vous allez au Père Lachaise. Et vous allez voir, là où sont marquées, là où sont les tombes, etc., vous allez voir Hahnemann. Il est enterré à Paris. Donc ce mec-là, il était médecin et il a eu des déconvenues dans l'exercice de son art. Non seulement il a tué quelques malades, mais en plus il avait des enfants, dont une qui n'a pas réussi à soigner. Et donc, il s'est souvenu du principe d'Hippocrate qui dit « Primum non nocere », d'abord ne pas nuire. Ouais. et s'est dit, comment pourrais-je continuer à pratiquer la médecine car je ne veux pas être le bourreau de mes frères. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas la chimiothérapie qui dégomme les 9 dixièmes des gens qui sont atteints de cancer, mais il y avait l'arsenic, le mercure,
la saignée.
Voilà, par exemple. Hein, donc c'était quand même des trucs costauds, quoi. Hein. Le mercure, on appliquait des pommades au mercure sur les chancres syphilitiques. Hein. Donc les chancres syphilitiques, c'était des énormes abcès qui poussaient un peu partout sur les corps. Et on mettait de la pommade au mercure là-dessus. Attention à l'acné juvénile. Hein. Donc, imaginez, nous maintenant, on n'a même plus le droit d'avoir un thermomètre au mercure. Hein,
c'est vrai.
Donc il y a eu des précurseurs à ce Tanuman, le Talmud, qui est en fait le livre dans lequel sont écrites toutes les règles d'hygiène de vie, on va dire, des Juifs, des Hébreux, pas des Juifs, des Hébreux. Des Mokrites, vous voyez, 470 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate, hein. Le Sanskrit, Paracelse, qui lui est aussi un alchimiste, et d'autres dont vous ne pensez même pas qu'ils ont fait d'homéo, notamment Shakespeare.
Ah ouais.
Alors maintenant, ce matin, il y a une question, c'est quoi l'allopathie? Quelle est la différence entre l'homéopathie et l'allopathie? Vous voyez, c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de questions-réponses, parce que souvent, j'ai déjà les réponses dans mon polycope.
C'est pas bougé, c'est pas...
Alors, l'homéopathie et l'allopathie, on va voir les différences. Alors, l'homéopathie, c'est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'elle va tenir compte de la globalité du patient. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir mal à la tête et être soigné avec un remède qui tiendra compte en même temps que vous avez mal au doigt-pied, au petit doigt-pied, ou que vous boitez de la jambe gauche, ou que vous éternuez le matin de telle heure à telle heure, que vous faites pipi vert et caca jaune. Vous voyez ? Et celui qui aura mal à la tête. Mais celui qui aura mal à la tête et qui n'aura pas ces symptômes-là, mais d'autres symptômes, n'aura pas le même remède. Tient compte de l'ensemble du patient, des autres symptômes associés. L'allopathie ne prend en compte que des parties déconnectées de leur ensemble. Tout à l'heure, je vous ai parlé du gars qui marchait comme ça parce qu'il avait des hémorroïdes. Et l'homéopathe, lui, il va tenir compte de l'ensemble du patient pour soigner ce mec-là. Alors que l'allopathe, lui, il va envoyer ce mec-là chez le proctologue. Et le proctologue, il faut quand même savoir qu'il est spécialisé au point de regarder des trous de balles toute la journée.
Ghetto trou.
Voilà, en allopathie, vous allez avoir les médecins qui sont archi spécialisés, les dermatologues, les gynécologues, les gastro-entérologues, les pneumologues, les otorhino-laryngologistes, etc. Voilà, vous avez des médecins spécialisés pour chaque chose. Alors qu'en homéo, tient compte d'un ensemble.
Ben oui.
Les Égyptiens, au temps des pharaons, pour devenir généraliste, il fallait être spécialisé dans toutes les branches. Et le généraliste, il chapeautait l'ensemble des médecins. C'était le plus grand médecin qui soit. Alors que chez nous, c'est l'inverse.
Il portait son nom à la base.
Vous voyez, en fait, nous, on a changé l'ordre de la dichotomie du truc, quoi. On a changé, on a mis le tronc et les branches à l'envers, en fait. L'homéopathe, il agit dès le stade fonctionnel, alors que l'allopathe, il va souvent agir seulement sur le lésionné. Qu'est-ce que c'est la différence? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Le lésionnel, si vous avez une lésion visible sur une radio, un scanner, une prise de sang, quelconque de bouton, de machin, là, l'allopathie, elle va gérer. L'homéopathe, lui, il va commencer à se poser des questions dès que la personne va commencer à avoir des complaintes qui même ne semblent pas normales, pas logiques. Imaginez, quelqu'un a mal à l'estomac, il va voir son médecin. Son médecin lui dit, oh, à mon avis, vous avez des aigreurs, vous avez donc une petite inflammation de la muqueuse digestive. Il lui donne, je ne sais pas moi, du gaviscon, des trucs pour des pansements, voilà. Sauf que le mec, il continue à avoir mal à l'estomac. Ça dure. Donc, il retourne chez le médecin et il dit, écoutez, moi j'ai toujours mal à l'estomac. Je prends mes Rémy, je prends mon gaviscon, je prends mon je ne sais pas quoi, j'ai toujours mal à l'estomac. Le médecin, qu'est-ce qu'il dit? On va vous envoyer ce gastro-entérologue et on va faire une fibroscopie. on endort le maître, on lui fait avaler un tuyau, on regarde dans son estomac, on voit rien. Qu'est-ce qu'on fait? On ressort le tuyau et on dit au mec, c'est là, donne des antidépresseurs. Alors qu'en fait, il a peut-être un blocage quelque part qui fait qu'il a mal à l'estomac. Pas nécessairement psychique ce blocage. S'il a un blocage énervant, il peut avoir des douleurs de l'estomac qui n'ont rien à voir avec son psychisme. Le psychisme est toujours plus ou moins responsable de tout. Mais malgré tout, il y a des choses qu'on peut régler sans travailler en psychothérapie. Donc ça, c'est le stade fonctionnel. C'est quand le système neurovégétatif, celui qui commande les organes et les fonctions, se dérègle pour une raison ou pour une autre. Ce mec-là, il a mal à l'estomac. Peut-être parce qu'il est tombé quand il était gamin. Il est peut-être tombé dans l'escalier. Ou il a essayé de grimper un arbre, il est tombé. Ou il a eu un coup du lapin il y a 15 ans. Et il est resté bloqué au niveau d'une cervicale. Mais ça se voit même pas à la radio. Même les ostéopathes sont passés à côté. Il a le nerf vague bloqué. Le nerf vague bloqué entraîne une suractivité au niveau de l'estomac avec trop d'acide chlorhydrique. Et hop, il a mal à l'estomac. Mais c'est pas dans sa tête. Il a vraiment mal à l'estomac. Sauf que ça se gère à peu près, donc il n'a pas d'ulcère, donc le médecin dit qu'il n'y a pas d'ulcère, donc il n'y a pas de raison, et ainsi de suite. L'homéopathie individualise le traitement, alors que l'allopathie standardise le traitement. Si vous avez deux enfants qui ont une maladie infectieuse, type une grippette, il y en a, il est rouge comme un coq, avec les yeux dilatés, les grands cils pleins de flotte, et puis il transpire à chaudes gouttes. Et l'autre, il est dans son lit, il grelotte, et il a des cernes jusque-là, tout blanc, tout crayeux, tout machin. L'allopathe, il va donner le même traitement aux deux gamins. Il va dire, ils ont la grippe, donc c'est paracétamol, et puis je sais pas quoi. L'homéopathe, il va donner deux remèdes différents à chaque enfant. Le rouge et le blanc, ils n'auront pas le même remède. L'homéopathe va rééquilibrer le terrain et stimuler les défenses. Donc on va stimuler les défenses de l'organisme pour que l'organisme reprenne le dessus. Alors que l'allopathie va traiter par des anti et prendre la place de l'organisme. Des anti-infectieux, des anti-diarrhiques, des anti-vomitiques, des anti-algiques, antalgiques, des anti-inflammatoires, des anti-tussifs.
Mais avec effets secondaires.
Mais avec beaucoup d'effets secondaires. Alors, vous voyez, quand on fait de la phyto, on est un peu dans l'allopathie, dans la manière allopathique, puisqu'on va traiter sur... Voilà. Mais malgré tout, les plantes n'ont pas ces effets secondaires, déjà. Et en plus, elles vont quand même aller travailler plus en profondeur, puisque je vous ai expliqué qu'il y a toutes les molécules qui sont autour de la molécule principale qui vont moduler les effets. L'homéopathe, il intègre le patient dans son environnement pour choisir les remèdes. Tiens, il m'entend ici. L'allopathe, lui, il tient absolument ou très peu compte de l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homéopathe, il va tenir compte, par exemple, si la personne, elle cherche l'air frais, si elle préfère rester au chaud, si elle est améliorée ou aggravée par un changement de temps du chaud au froid, ou du froid au chaud. Si les pathologies surviennent à la suite d'une période de sécheresse ou d'une période d'humidité. Tout à l'heure, il y en a un qui m'a parlé là, d'une histoire de... C'était quoi? Qui évoluait dans une plante au fur et à mesure de la journée.
Le taux de phosphore de la plante. Avec les horloges circadiennes.
Voilà. Donc, on va tenir compte du rythme circadien. On va tenir compte de plein de choses comme ça. Donc, en allopathie, on tient rarement compte de ce genre de truc. Hein. Ils en sont au point de croire, enfin de dire, que ce n'est pas vrai que les gens ont plus mal, que certaines personnes ont plus mal dans les problèmes articulaires quand il fait humide. Tout le monde sait très bien que les vieux, attends, il va changer parce que je sens ma hanche, hein, ou ma cicatrice me gratte. Les mises bas, avec la pleine lune, la nouvelle lune, ils sont en train de dire que c'est pas vrai, parce qu'ils n'ont jamais été veto. Hein,
si c'est qu'on veille. Qui mettons derrière le île?
Le lobby.
Les lobbies, voilà, les médecins, les chercheurs, tu lis ça dans les JAFMA, machin, les grandes revues médicales.
Ils n'ont jamais été sur le terrain, ces gens-là.
Si, voilà. Parce qu'eux, ils font des stats.
Non, ils font des stats, mais ils ne font pas les stats au mauvais endroit. Et tu sais, les statistiques.
On leur fait dire ce qu'ils veulent.
Les statistiques, on leur fait dire ce qu'ils veulent. Nous, on nous disait à l'école, les statistiques, c'est le lampadaire. Il permet au soulard de rester droit. Hein.
Notez, on va l'écrire. Elle vaut.
Oui, non, mais n'empêche, une fois qu'on a dit ça, n'empêche que si on fait les stats, on regarde qu'il n'y a pas plus de naissances qu'il y a plus de naissances, il n'y en a pas.
Ah oui, après, vous avez l'impression. Non, mais moi, je peux dire, je suis dans un cabinet vétérinaire depuis, donc je travaille en tant que véto depuis 30 ans. Je peux te dire que quand je vois arriver la pleine lune.
Bah. Même les sages-femmes, elles le disent. Hein. Elle va y arriver la pleine lune, elles savent très bien que les accouchements vont venir.
C'est passé comme merde. Les grosses merdes, c'est toujours les trois jours de la pleine lune.
Tout ça fait.
T'as la paix pendant 25 jours, 26, 27, 28. Blam, blam.
C'est vrai.
Là, vous posez des questions.
Même les sages-femmes.
Évidemment.
Le cabinet est fermé, ça.
Elle agit
sera une urgence.
La pleine lune, la nouvelle lune,
ça dépend.
On sait très bien, par exemple, que les verminoses, elles se réaniment. Les obscures se réaniment plus facilement au moment de la nouvelle ou de la pleine lune. C'est à ce moment-là que les femelles obscures migrent vers la marge anale et commencent à gratter les gamas au trou de balle. Hein.
Mais c'est pour ça qu'on donne, d'ailleurs, enfin, moi j'ai mes enfants, je donne les traitements.
Lune, pleine lune,
oui, bien sûr. Bien sûr, je tiens compte de ça.
Ah, mais
ça,
mais les bêtes, elles font pareil. Je suis situé.
Là, je suis allée.
Je suis situé sur. Le basifarme, je suis situé sur.
Oui, bien sûr. Là, je viens d'aller soigner des vaches dans une exploitation que je ne connaissais pas. Le mec, il tient compte des. Il tient compte de tout ça pour les mettre dehors, les rentrer, etc. Allez, on continue. Alors, donc, en plus. Nous, on va utiliser des doses très faibles qui sont parfois non identifiables. Les doses, par contre, en allopathie sont souvent massives et elles induisent ce qu'on appelle des maladies iatrogènes. Les maladies iatrogènes, ce sont celles qui sont induites par l'utilisation des médicaments. Donc vous avez une maladie, on vous soigne pour cette maladie et derrière vous en avez une autre qui apparaît, c'est les effets secondaires si on veut. Sauf que, par exemple, le paracétamol que vous connaissez tous, les feralgan, le doliprane, etc. Il faut savoir qu'avec 4 grammes de doliprane ou des feralgan par jour, vous pouvez déjà faire une hépatite massive et fulgurante qui peut vous tuer. 4 grammes, c'est 4 comprimés. Hein.
Bon. Sans compter l'état du foie, sans compter
le. Bah, c'est le foie, l'hépatite. Ouais. L'hépatite fulgurante, c'est le foie qui est déconnecté de son ensemble. Je vous ai expliqué tout à l'heure tout ce que ça a engendré comme truc. Ouais. Vous pouvez avoir comme une amputation du foie en 24 heures avec 4 grammes de paracétamol. Alors bon, il faut avoir une prédisposition, on est d'accord. Parce que si nous, on prend 4 grammes de paracétamol, on va survivre. Mais moi, j'ai connu un mec qui avait 4 grammes de paracétamol. Il était complètement malade comme un chien. Donc, vous voyez, c'est très peu 4 grammes de paracétamol. Donc ça, c'est une maladie iatrogène. Ensuite, donc, la dernière, donc l'homéopathie, les doses sont très faibles. Je vais vous expliquer les dilutions après. Et puis, on utilise en homéopathie une technique qu'on appelle l'utilisation des semblables, la similitude. Alors qu'en allopathie, on utilise les contraires. Donc, pour retenir une chose. En allopathie, pour soigner les vomissements, on utilise un anti-vomitif. D'accord ? Ça, c'est le contraire. En homéopathie, c'est le vomi soigne le vomi.
Le mal par le mal.
Le mal par le mal. Si quelque chose.
Tu rentres à le lendemain.
Ça,
tu vois, t'es connu, ça.
Et ça fait vomir.
Donc, on n'a rien appris. On n'a rien appris.
Alors, ce qui est étrange, c'est ça. C'est de se dire j'ai des symptômes, et pour soigner mes symptômes, je vais prendre un remède qui, chez l'homme ou l'animal en bonne santé.
C'est une vaccination, quoi.
Oui, on compare toujours ça à ça, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous me laissez finir ma définition, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Vous avez des symptômes. Vous allez prendre, pour soigner ces symptômes, un remède qui, s'il est donné en petite dose, mais en dose pondérale quand même, on peut les peser, chez un animal ou un être en bonne santé, va donner les mêmes symptômes. Donc, par exemple, justement, le nux vomica, la noix vomique, strychnos nux vomica, si vous empoisonnez avec la noix vomique, vous allez vomir. Et en homéopathie, on va l'utiliser contre les vomissements. C'est pour ça que quand vous êtes bien bourré, le lendemain matin, si vous faites de l'homéo, il faut absolument reboire un bon coup.
Oh, on va venir de bonnes nouvelles.
Vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît.
C'est une heure de masse. Alors, il faut savoir quand même... C'est
l'artimissaire de la formation.
Entre les deux moments, il va falloir avoir dilué et dynamisé votre alcool.
Ah.
Là, il va falloir nous expliquer. Ça vient.
Pardon. Donc, moi je vous replace l'homéopathie dans l'arsenal thérapeutique. Donc, je vous ai parlé de l'allopathie. L'allopathie, donc, c'est tous les médicaments que vous connaissez, que ce soit les antiparasitaires chimiques, les anti-inflammatoires, les anti, toutes sortes de choses, et même les antibiotiques qui portent très bien leur nom, puisque anti-bios, la vie. Hein, donc, moi, je préfère appeler ça des anti-infectieux. C'est quand même dingue d'avoir donné un nom pareil. Donc, je vous ai comparé l'homéopathie avec la phyto, la gémo, l'aroma, l'oligothérapie, l'organothérapie, l'isothérapie, etc. La phyto, je vous en ai parlé ce matin, donc c'est l'utilisation des plantes sous dose pondérale, donc en milligrammes, en grammes, voire en kilos, ça dépend par rapport à combien. La gémothérapie, donc c'est l'utilisation des bourgeons de plantes. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles. L'oligothérapie, c'est l'utilisation des oligo-éléments. L'organothérapie et l'isothérapie, ce sont des branches de l'homéopathie qui se servent pour la première d'organes, ou de glandes, ou d'hormones. Et pour la deuxième, par exemple, vous avez un animal qui a du pus, qui a des abcès. Vous allez prendre ce pus, le diluer, le dynamiser et le redonner à l'animal. Là, on est proche de la vaccination.
On le remet sur la plaie ou on le refait ingérer
dans le corps.
Oui. Mais il faut d'abord l'avoir préparé.
Oui.
Ça marche relativement bien. Ça marche tellement bien que ça a été interdit.
Ah, génial.
Donc, dans le temps, il y avait des laboratoires qui vous fabriquaient ça. Par exemple, vous aviez des vaches qui faisaient des métrites avec des rétentions d'arrière-fait ou des truies qui faisaient métrites Mamita Galaxy. On prenait les lochis, on envoyait ça dans un laboratoire qui en faisait des remèdes homéopathiques qu'on donnait aux truies pour éviter le problème. Mais ça, c'est interdit.
L'isothérapie placentaire existait.
Oui, voilà.
J'ai fait pour mes deux premiers enfants et ça a été interdit.
Oui, voilà. On n'a plus le droit de prendre des parties d'organes sceptiques et de les mettre en circulation voilà. Donc, si vous voulez en faire un jour, il faudra la préparer vous-même.
Ça veut dire que les ampoules qu'on mettait pour les vaches.
Le vombil. Non, c'est pas du tout ça.
Ah bon ?
Le vombil, c'est vraiment de l'homéopathie. Donc, ce sont des remèdes homéopathiques. Donc, ce n'est pas du placenta, ce n'est pas des lochis de vache, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment de l'homéopathie. Donc, ce sont des remèdes homéopathiques.
Des lochis de vache.
Les lochis, c'est les écoulements, c'est ce qui sort, les eaux fœtales, les bouts de placenta. Alors, donc, en homéo, on va servir, comme je vous l'ai dit, des plantes. Donc, il y en a une que vous connaissez bien, c'est l'arnica. Là, j'ai quand même eu le temps, vous voyez, de mettre une petite image. Pour ceux qui
voient
des images tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous ai mis Arnica parce que ça commence par A, et puis on connaît tous l'Arnica. Donc l'Arnica, on l'utilise en homéo, en 5CH, en 7CH, en 9CH, en granules, quand on a des bleus. Vous êtes d'accord? Quand on sait donner un coup.
Avant, pour éviter les bleus.
Non. En général, les gens prennent quand ils ont déjà leur coup.
Oui,
imagine que tu sors d'ici, tu prennes la porte là, tu n'as pas pris l'arnica hier matin parce que tu allais... Oui, d'accord, mais je veux dire...
Quand on est préparé un traumatisme, on peut l'anticiper après.
Ah, tout à fait. Je vais vous expliquer comment faire. Alors donc, en fait, oui, dans ce sens-là, tu as raison. Il faut éviter que ça passe au bleu.
On a un peu en bleu.
Alors, sachez que si vous prenez de l'arnica, pas homéopathique, mais de l'arnica plante, à petite dilution, si vous faites ça pendant un jour ou deux ou trois, vous allez avoir des bleus. Vous allez avoir des ecchymoses.
Ah, donc c'est vraiment...
Vous voyez, c'est vraiment, on soigne le mal par le mal. Ce qui va être la différence entre les deux, c'est le dosage.
Ouais, le dosage, oui.
Donc, on va y arriver. Hein. Donc il y a d'autres plantes, il y a Pulsatilla, Lycopodium, Nux vomica, tout à l'heure on en a parlé, Rustox, Ruta et puis plein d'autres. Hein. Ensuite vous avez les animaux.
Ah, on a rien dit.
Apis mellifica, c'est l'abeille. Sepia, c'est la sèche, donc on utilise l'encre de sèche. Lachesis, c'est le serpent lachesis. Ranabufo, c'est le crapaud. On utilise ici ce qui est contenu, vous voyez, je vous utilise les crapauds. Ce qui est contenu dans les...
Ah, c'est de la...
Donc ici, on utilise le venin du serpent lachesis, et c'est celui-là qui est très efficace contre la diarrhée verbale.
Les diarrhées
verbales.
La diarrhée verbale,
c'est la maladie
à moi. La
diarrhée verbale, les gens qui parlent.
Le rana quelque chose
là. Rana du faux, c'est le crapaud. Alors après, vous avez les calcaria. Calcaria carbonica, c'est le calcaire d'huître. Le calcaria fluorica, le calcaria phosphorica. Le sulfure, le soufre, dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au chien qui avait eu des boutons partout. Vous avez les métaux, l'or, mais aussi le plomb, l'argent, le mercure, l'arsenic. Vous voyez, tout, en fait... Les métaux lourds peuvent être utilisés. Ensuite, vous avez les nosodes. Donc, vous avez les nosodes, ce sont les microbes. Vous avez par exemple streptococcinum, c'est le streptocoque. Colibacillinum, c'est le colibacille. Alors, peu importe que ce soit un A180 machin, un K90, un FY, L machin, on s'en fiche. C'est colibacillinum de toute façon. On pourrait acheter que celui qui existe chez Boiron, puisque c'est Boiron, Saint-Boiron qui nous fait nos remèdes homéopathiques en France.
Donc, il y a autre chose comme la
Boiron. Il y a aussi la pharmacie des Archers à Épernay. Oui, il y a... Si, tu peux avoir aussi Véleda, tu peux avoir Lénine, mais tu n'auras pas les CH, tu auras les DH. Non,
je retrouverai.
C'est Lénine.
Lénine. Lénine
est bon. Non.
Staphylococcinum, après moi je connais un ou deux pharmaciens qui fabriquent des remèdes homéopathiques, mais les huiles, les teintures mères viennent toujours de chez Boiron ou Rocca. De toute façon, ils sont les seuls. Il faut quand même savoir que ces deux laboratoires, ils ont dépensé des milliers d'euros pour faire déposer
les
AMM. On les a obligés à déposer des AMM.
C'est quoi de ça ?
Autorisation de mise sur le marché pour les teintures mères.
Tout ce qu'ils sont en train de faire avec les sponsors.
Voilà, donc on a plus la possibilité, si tu les fabriques toi-même. Mais
on a coupé le circuit, quoi.
Bah, et c'est pas eux qui ont voulu, hein, parce qu'ils ont dépensé des millions d'euros. Hein. On a une gamme de complexes homéopathiques Veto qui sont faits par Boiron. Ils ont dû déposer des AMM pour chaque présentation. Donc entre la présentation de traumacédile en 1 litre et la présentation du traumacédile en ampoule buvable, qui est exactement le même remède, simplement il est en 1 litre ou en 5 ml, il y a 2 AMM déposés. Donc vous voyez un peu quoi, c'est vraiment, on est vraiment cadenassé. Hein. Donc vous avez aussi des produits animaux. Alors pyrogénium, c'est de la viande de bœuf pourrie, donc ça sent un peu la viande faisandée, hein, même un peu beaucoup. Hein. Ceux qui ont déjà senti une vieille délivrance de vache pourrie dans un coin, bah, c'est à peu près cette odeur-là.
Pas bonne digestion tout le monde.
Ensuite, vous avez les vaccins qui peuvent aussi servir. Donc, par exemple, le vaccin, ici, on a l'influenzinol, c'est fait à partir d'un vaccin contre la grippe humaine. Et ça marche aussi sur tous les animaux, quel qu'il soit, du plus petit au plus grand, de la caille jusqu'au taureau charolais de 1000 kg, ou au percheron de 1200 kg.
Pourtant, les animaux ne peuvent pas vous refiler leur vie,
non, vice-versa. Non, mais ce n'est pas ça le problème. Là, on va stimuler la réactivité de l'organisme contre des virus, donc ça va marcher. Alors, donc, moi, dans mes clients, il y en a plein qui font le système vaccination homéopathique pour eux, déjà, et puis pour leur bétail, leurs animaux, que ce soit les poules, les machins. Donc, en donnant d'une certaine manière durant tout l'hiver, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, et on évite sérieusement tous les problèmes infectieux type respiratoire sur les bovins, les poules, etc. Les produits pathologiques, le luésinum et le médoridum, ce sont des produits très très sympas puisque c'est ceux de la chaude pisse. Hein,
De quoi ?
La chaude pisse. La ch'touille.
Voilà. Bientôt la gono. Et...
Voilà, la gono, exactement, oui. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est ça. Alors, c'est du pus hein, qui a été pris et puis qui a été préparé sous forme homéopathique. Voilà, ceux qui voulaient savoir comment on fabrique les remèdes homéopathiques.
On a retrouvé le bonheur.
On m'a fait de manger avant.
Alors, la fabrication. Donc, on va déjà prendre les différentes souches. Donc là, je vous ai parlé des souches. Il y a des souches, donc animales, végétales, etc. On les met à macérer dans de l'alcool de manière à obtenir des solutions qui contiennent soit 10% de plantes déshydratées ou 20% d'animal broyé ou de son extrait. Et ça, ça nous permet d'obtenir une teinture mère. Et le sigle pour teinture mère, c'est TM. Teinture mère. Les minéraux simples ou composés, on les utilise comme ils se présentent dans la nature. Ensuite, il va falloir qu'on utilise cette teinture mère pour la diluer. Il existe trois méthodes. La méthode hahnemannienne, du nom de son découvreur, Hahnemann. La méthode korsakovienne, du nom de Korsakov. Et la méthode à flux continu. La dernière, vous l'oubliez, parce qu'en France, elle est interdite. Et puis d'ailleurs, elle est un peu saugrenue, donc voilà. Les deux premières, on commence par celle de Hahnemann. Alors, on va prendre une série de tubes à essai. Alors, on va prendre autant de tubes à essai qu'on veut faire de dilution. Donc, si on veut faire 30 CH, on va avoir besoin de 30 tubes à essai. Si on veut faire 200 CH, on va avoir besoin de 200 tubes à essai. Si on veut faire 1000 CH, on va avoir besoin de 1000 tubes à essai. Vous voyez un peu la recette que ça représente. On va prendre...
C'est une solution CH.
Là, on parle de la fabrication des remèdes. Donc, on a commencé par faire une teinture mère. Maintenant, on va diluer les remèdes. On va faire une première CH, une première centésimale hahnemannienne. Centésimale pour le chiffre 100, donc dilué par 100. D'accord ? Alors, on va prendre une goutte de la teinture mère qu'on a faite, par exemple arnica, une goutte de teinture mère d'arnica, et on va rajouter 99 gouttes de solvant. Le plus souvent, c'est de l'alcool à 40 degrés. On va ensuite agiter cette solution qu'on a fabriquée, et c'est ça qui s'appelle la dynamisation. Dynamisation qui se fait en agitant le tube de haut en bas ou en le mettant dans un vortex. Alors après, il y a des puristes qui disent qu'il faut agiter d'est en ouest ou de nord au sud, je ne sais plus, je m'en fous. Quand je dois en faire une de dilution, je fais comme je peux, et puis 100 fois. Hein. Donc il faut avoir des bonnes épaules.
C'est quand vous, quand vous faites un échantillon comme ça, vous divisez quand même. Le but de... Les agiter, c'est de, les molécules.
Oui.
C'est comme dans du sirop dans l'eau. Plus vous allez mettre d'eau, moins il y aura de sirop.
Ben, c'est le but, oui. C'est exactement le but.
Mais
de
là,
la
en
valeur.
Dynamisant, c'est fait pour que les
pour
molécules.
Dynamiser, pour les bouger, les dynamiser.
Voilà, mais ce qu'on a cru comprendre, c'est que la CH est plus concentrée que le.
Non, c'est l'inverse.
Dynamisant, c'est une homogénéisation, en fait.
Non.
Mais non, mais ce que vous avez dit qu'en France, ça va du 4 au 30 et qu'en
Italie, ça va du 30 au 30.
C'est dans le
parce que oui, pour moi, plus on va le réciter,
plus c'est
concentré. Plus c'est
concentré,
ils sont plus dynamisés. J'étais plus concentré chez nous.
Non. C'est ça qui est difficile à comprendre avec l'homéopathie, c'est qu'on fonctionne à l'envers de nos façons de penser habituelles. D'habitude, quand on veut que quelque chose soit plus puissant, on augmente la concentration. En homéopathie, la puissance va augmenter inversement, de façon inversement proportionnelle à la concentration. Plus on aura dilué, plus on va avoir une
une action différente. Ce n'est même pas une action plus forte, c'est une action différente. Mais plus on va monter dans les dilutions, plus l'effet va être comme un coup de foudre.
Hein,
ouais,
c'est ça.
Voilà, exactement.
Donc, en fait, on voilà, est capable de faire ça
avec le CH. Plus puisque tu obliges ton organisme à réagir, et plus tu vas augmenter la dilution, plus la réaction va être puissante. C'est l'inverse de tout ce que vous connaissez. C'est pour ça que c'est compliqué.
Parce que c'est parce que ça se passe au niveau du cérébral.
Plus tu montes dans la dilution, plus tu agis en dessous.
Voilà.
Alors le 30, il est plus dilué.
Si vous voulez bien rester avec moi, là, parce que sinon, moi, je n'y arriverai pas. Hein. Parce que déjà, vous avez du mal. Donc, si vous vous papillonnez dans tous les sens, vous n'y arriverez pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on agite, donc de haut en bas, de droite à gauche, je m'en fous, pour mettre en mouvement les molécules. Les molécules d'eau, qui, quand elles sont agitées, se séparent en atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et vont former ce qu'on appelle des... Ça, je vous le dis parce que quelqu'un m'a posé la question, sinon je ne vous l'aurais même pas expliqué. Hein. Quelqu'un, donc, vont former des espèces de chaînes, comme si nous, on se prenait tous par la main, en faisant des espèces de virages, et emprisonner les quelques atomes de remède qui restent. Mais en même temps, elles vont se charger de l'information de ces atomes. Et à un moment donné, arrivé à la 11CH, vous n'aurez plus du tout d'atomes ou de molécules du principe actif dans votre solution. Vous n'aurez plus que la mémoire de ces choses-là. L'information. D'accord ? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'homéopathie, ça agit par l'information. Si vous retenez ça, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions existentielles par rapport à la concentration. Vous dites, l'homéo, c'est une médecine d'information, et à partir de là, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête. Ah oui, mais bon, c'est plus concentré, c'est moins concentré, c'est dilué, c'est pas dilué, on s'en fout, c'est pas vous qui les fabriquez, de toute façon. Hein? Donc, ce qui va se passer?
Vous arrivez à diviser les molécules d'eau sans courant électrique dedans?
Ben, bien sûr.
Normalement.
Mais non, bien sûr. Je vous ai expliqué dès le départ que ça datait de 1780. C'est pas d'aujourd'hui. Donc le mec, il n'avait pas de courant électrique à l'époque. Hein. Mais je vais vous raconter après comment il a observé l'histoire de la dynamisation. Parce que c'est pareil. On ne s'est pas mis à dynamiser sans raison. Il y a eu une observation. Hahnemann, il a observé. C'était un scientifique de l'époque, avec les restrictions de l'époque. Mais il observait ce qui se passait. Il a vu que plus il diluait les remèdes, plus il avait des actions, effectivement, sur le système nerveux, sur le psychisme, etc. Et il a vu aussi que... Ça va, ça vient. Alors donc, maintenant, on a fait notre première CH. Première, centésimale, allemannienne. C pour centésimale.
C'est pour cochon.
Parce qu'on a dilué par 100.
Oh, le vache.
Et H pour Hahnemann. D'accord ? Bon, maintenant on va reprendre une goutte de la 1CH, on va la mettre dans le deuxième tube à essai, et on reprend 99 gouttes de solvant. Et là on a fait la deuxième centésimale. Donc là on a dilué déjà 100 fois 100 fois.
Globalement, si vous analysez une granule de 30 CH et une granule de 200 CH, vous allez la retrouver.
Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. De la 11 CH, tu ne retrouves rien.
L'information.
Que de l'info.
Alors moi, je suis assez cartésien, mais comment faire la différence entre la 30 et une 200 s'il n'y a plus rien dedans?
C'est que de l'information.
Elle est informée. C'est l'information qui va changer avec la dynamisation.
Je vais vous poser une question.
C'est pas le mental qui doit agir.
Ça y est.
C'est le mental, évidemment.
Il faut s'agir sur les champs.
Et là, tu parles de l'empathie.
C'est la biodynamique.
Je parle à la scientifique. Dites-moi tout.
Pose les sous.
Oui, parce que c'est faisable, mais non parce que il faudrait que vous soyez sûr qu'en utilisant votre produit phyto dilué et dynamisé, vous allez bien agir sur ce que vous voulez agir. Or, je vous ai dit qu'on traite le mal par le mal.
Or, votre déphyto, c'est un anti quelque chose.
Voilà. On tombe dans l'allopathie.
Ça pour les plantes, diluer avec son produit voilà. Phyto pour qu'elles apprennent à résister au produit phyto.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore actuellement des recherches en homéo. Ce n'est pas, on n'a pas arrêté les recherches homéopathiques quand Hahnemann est mort. Il y a même un professeur qui s'appelle le professeur Montagnier, qui est quand même pas n'importe quel abruti qui a perdu dans le jardin, qui fait des recherches actuelles sur l'information transmise par les remèdes homéopathiques. Et je peux même vous expliquer comment il a fait. Il a pris une solution d'homéopathie, alors c'était très dilué, hein, c'était plus que 30 CH. Donc il savait à quoi servait cette solution et à quelle pathologie, pour quelle pathologie on l'utilisait. Ils ont transmis l'information de cette solution sur un ordinateur. Alors l'ingénieur, là, il va pouvoir me décortiquer. Alors ça fait un algorithme. Donc un algorithme, c'est un peu comme quand vous voyez dans les films policiers, quand on décortique des voix, vous savez, ça fait des... Hein? Donc ils ont transmis l'émission énergétique du remède, de l'eau, qui contenait le remède homéopathique, sur un ordinateur en décortiquant algorithmiquement. Ils ont envoyé l'algorithme par Internet aux États-Unis. Aux États-Unis, on a retransféré l'information algorithmique qui est arrivée par Internet dans de l'eau pure qui ne contenait pas le remède. Et on a redonné le remède à une personne ou un animal qui avait la pathologie et ça a eu exactement le même effet. Donc vous voyez, je sais que ce n'est pas évident pour vous de comprendre ça intellectuellement. C'est pour ça que je vous ai demandé d'écouter un peu ici. Et si vous ne me faites pas ce plaisir-là, on n'arrivera à rien. Si vous mettez tout en doute...
On peut être étonné quand même.
Étonné, c'est normal. Croyez-moi.
Ce que vous dites là, c'est bon que vous êtes une scientifique, ouais. Je ne suis pas sûr que je vous croirai.
Mais... c'est une péto.
Pour vous rassurer. Quand je suis sortie de l'école vétérinaire, j'ai utilisé un seul produit homéopathique, c'est le Vonville. Parce qu'on m'avait dit, ça marche pour faire délivrer les vaches. Moi, je prenais ça, paf, paf, paf.
Il n'y a pas de risque.
Voilà, puis on me disait que ça marchait, donc moi, je faisais. Hein. Et puis, moi, l'homéopathie, pour moi, ça me passait les 50 mètres au-dessus de la tête, hein, voire peut-être 5 km, je ne sais pas. Quand je suis tombée malade et que j'ai été soignée par l'homéopathie, ça a marché de façon spectaculaire. En 2-3 jours, j'étais mais vraiment ressuscitée. J'avais peu de temps avant, comme quoi il y a des portes, il y a des chemins qui s'inscrivent, où j'avais reçu par la poste un dépliant pour une formation accélérée d'homéopathie vétérinaire, que j'avais mis sous la pile des documents, parce qu'à l'époque j'étais mariée avec un vétérinaire qui était très cartésien et qui ne comprenait, qui ne s'occupait de rien. Bon, oh, c'est de la connerie. Mais j'avais quand même eu un petit doute, je l'avais poussé en dessous. Puis donc, comme j'allais mieux très rapidement, j'ai sorti mon petit papier. Oh là là, on était le mardi, ça commençait le vendredi matin à Lyon. Moi j'habitais dans l'Aisne, hein, à l'époque le TGV et tout c'était compliqué, enfin bon. J'ai téléphoné, j'ai pris mon train, je suis allée à mon cours. Et quand le gars, il a commencé à m'expliquer tout ça, je me suis dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Et je n'arrivais pas à retrouver où je l'avais entendu. J'ai déjà entendu ça. Et c'est que dans le train du retour, après 3 jours, je me suis dit, ça y est, je sais. J'avais eu une conférence d'une heure et demie sur l'homéopathie quand j'étais en avant-dernière année véto.
C'était la dilution de la formation.
J'avais occulté la chose.
Ah ouais.
Je l'avais occulté parce que ça ne me convenait pas. Vous comprenez? Donc je ne vous en veux strictement pas. Je comprends que vous vous mettiez en
route. C'est
bien. Je comprends bien.
C'est une précision.
C'est bien la formation.
On peut s'interroger et vous êtes tout à fait en droit de vous interroger. Simplement, sachez qu'il y a, donc je vous dis, encore toujours des recherches actuellement pour expliquer toutes ces choses-là. Et après, je vais vous parler d'une expérience qu'on fait sur les végétaux, puisque ça vous touche de près, si je me trompe. Donc, je vais pouvoir vous donner une expérience. Donc voilà, on a fait la 2CH. Eh bien, selon le même principe, on reprend une goutte de 2CH, on met dans un tube à essai, 99 gouttes de solvant, et ainsi de suite. Donc ici, on sera déjà à 100, par 100. Donc vous imaginez quand on va arriver à 30, le nombre de fois où on aura dilué par 100 tout ça. D'accord ? Donc ça, ce sont les dilutions centésimales anémaniennes. En Allemagne, ils utilisent les décimales anémaniennes, donc au lieu de faire un chiffre de 100, ils font un chiffre de 10. Donc c'est 10 gouttes pour 90 gouttes. Hein, et c'est le même principe. Ensuite, je vous explique la dynamisation. Donc, je vous ai dit, ça a été observé par Hahnemann parce que lui, donc, il soignait les gens chez lui, à son cabinet, il fabriquait lui-même ses remèdes, et il fabriquait aussi, et il soignait aussi des gens chez eux, à domicile. Et il s'était rendu compte que ça marchait mieux quand il soignait à domicile que quand il soignait chez lui. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Le trajet. Sauf qu'à l'époque, le trajet, ce n'était pas l'autoroute avec des voitures super, c'était à cheval ou dans la carriole, et c'était secoué. Donc il s'est dit, pour que l'efficacité de mes remèdes soit meilleure, il faut que je les agite.
C'est beau,
ouais. Il a appelé tout ça la dynamisation.
Ah, le cheval.
Je te dis pas, c'est le cheval. Merci, le cheval. Alors, il y a un Korsakov. Alors, je vous parle de Korsakov parce qu'on a des dilutions korsakoviennes en France. Alors là, on va de la 1000, enfin, même de la 100K à la 10 000K, parfois 50 000, parfois 100 000K. Pas le chocolat 1000K. Hein. On peut avoir le remède chocolat à la dilution 1000K. Je n'utilise pas tous les jours. Hein. Je ne trouve pas sur les pieds. Donc Korsakov, lui, c'était un noble russe qui avait été blessé à la guerre et qui avait une gangrène d'une jambe. Un peu comme le fils de Depardieu. Sauf que lui, c'était pas à la guerre, c'était à l'hôpital. Et donc, il fallait l'amputer. Donc il n'a pas voulu se faire amputer et il a entendu parler de Hahnemann. Il est allé voir Hahnemann et Hahnemann lui a donné un remède qui s'appelle l'édome palustre. Et il a guéri de sa gangrène. Il a boité, mais il a guéri de sa gangrène. Et donc il a dit, bah, cette méthode me convient très bien, ça ne coûte pas cher. Il était comme vous, en fait, il cherchait un truc pas cher pour soigner ses serfs. Pas ses serfs, ses serfs, ses paysans, hein, uh-huh. En Russie. Les serfs, vous avez jamais vu ?
Les serfs.
Les manants, voilà. Et donc il est allé et rentré chez lui et il a voulu faire ça. Sauf que je vous dis, à l'époque, on allait jusqu'à là, 1000 CH, 2000 CH. Il n'avait pas aussi autant de vaisselle. Donc il a dit, bah, moi je vais arranger ça avec un seul petit quai, je vais faire mes dilutions. Donc il a fait sa première korsakovienne exactement comme la première centésimale allemandienne. Il a bien secoué, comme lui avait expliqué Hahnemann. Il a obtenu sa première korsakovienne. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a balancé sa première korsakovienne à l'évier. Enfin, ou par terre, ou dans le ruisseau, je ne sais pas. Moi. Et il a dit, ce qui reste sur les parois de mon verre, c'est la goutte que j'utilise pour faire ma deuxième dilution. Et il a recommencé à agiter, et il a rebalancé, et ainsi de suite.
C'est ça qu'il faut que tu fasses avec les phytos.
Voilà. Si vous faites ça...
Tu balances pas au ruisseau.
Si vous faites ça, vous pouvez monter jusqu'à la 100 000 K avec un seul potiquet. Par contre, si vous faites faire ça par une machine, ça met 15 jours. Et ça utilise je ne sais pas combien de litres d'eau ou d'alcool. C'est énorme. Donc on n'obtient pas facilement de boirons qui nous fassent des 100 000 K. Hein. Jusqu'à 50 000 pour certaines dilutions, pour certains remèdes, ça va, mais voilà. Donc ça, c'est la méthode korsakovienne.
Et c'est plus puissant, hein ?
Alors, ça agit plus en psy, plus en psychisme. Par contre, vous allez pouvoir utiliser cette méthode-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vaccinent les animaux ? Calme plat. Bon. Donc, ça ne sert à rien de vous vacciner.
Les volailles, quand on les achète, ils sont déjà
vaccinés. Ouais. Mais vous n'avez pas le vaccin.
Non.
Ouais, donc si vous n'avez pas le vaccin, ça ne sert à rien.
Mais la psychologie de la poule, sachant qu'elle a des...
Admettons qu'on vaccine.
Imaginez que vous vacciniez. Parce qu'il y a plein d'éleveurs de volailles.
J'ai refusé de faire le vaccin de la fièvre catarrhale.
Si vous vaccinez des animaux, peu importe lesquels animaux, hein, que ce soit des lapins, des poules, des canards, des bovins, des dauphins...
Même nous.
Vous le faites vous-même. Faites le vaccin à vos animaux. Vous avez, mettons, allez, vous vaccinez 100 moutons. Hein, vous avez du vaccin pour la FCO pour 100 moutons. Bien, vous vaccinez vos 100 moutons. Et 100 doses. passe. Les 100 moutons, ils passent, ils ont tous leur vaccin. Une fois que vous avez fait vos 100 vaccins, à vos 100 moutons, vous n'avez plus rien dans, dans le flacon, il est vide. Surtout si vous avez une goutte.
Exactement. Ah, c'est une goutte. Et vous remettez de l'alcool, vous faites 100 vaccins.
Voilà.
J'ai vu le revers, on y va, ils ont la goutte au bout.
C'est bien, c'est la meilleure.
Une fois que vous avez fait vos 100 vaccins, ici au fond, là, il reste une petite goutte, une petite pellicule. Hein? D'accord. Et ben, vous prenez de l'eau ou de l'alcool, vous remplissez votre flacon et vous faites votre dynamisation. Vous avez fabriqué la AK.
Vous l'avez dynamisé pendant combien de temps?
100 fois.
Normalement, c'est 100 fois. Mais bon.
Alors, si je mets de la vitamine dans de l'eau, si je laisse couler pendant une heure, je triple, je quadruple, je...
Ça, je ne peux pas vous garantir, parce que ces études-là n'ont pas été faites. Moi, je ne vous donne que des choses qui ont été étudiées, qui ont été démontrées.
Même dans l'alcool, je coupe même dans l'alcool, ça ne dénature pas le...
Non, non. Donc, vous avez bien fait vos vaccins. Il ne faut pas ne pas les faire. Il faut les faire, les vaccins. Il faut administrer les vaccins à vos animaux. Après, vous mettez cette goutte pour ajouter de l'eau ou de l'alcool, vous dynamisez, et ensuite, vous repartagez cette quantité, là, que vous avez obtenue, sur vos 100 moutons. Mmh. Et par la bouche.
Là, on compte.
Sur ceux qui ont été vaccinés.
Ceux qui ont été vaccinés.
Sur ceux qui ont été vaccinés.
Voilà. Et vous avez fait une isothérapie vaccinale extemporanée qui va diminuer les effets secondaires de la vaccination.
C'est ce qu'on a dans le VAB là.
C'est ce qu'on a dans le VAB. Alors moi j'utilise jamais ça, le VAB, parce que tout, il y a de la tuberculine dedans. Parce que tout ce qui contient le mot tuberculine, tuberculose, tuberculinique, j'utilise pas. Parce que si jamais vous avez le malheur qu'un de mes confrères tombe là-dessus, que ce soit un confrère à son compte, ou que ce soit la DDPP ou je sais pas quoi, tuberculine, gna 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 gna. N'utilise pas ça. Ça, mais je vous dis, il faut vacciner les animaux avant. Hein.
Oui, comment ça n'agit pas?
Ça, ce n'est pas un vaccin, c'est pour contrer les effets secondaires de la vaccination.
C'est marqué sans
dynamiser, en fin de compte.
Voilà, dynamiser, vous êtes sur la 1K là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous parlez de la course sacovienne. Sinon, en médecine vétérinaire, pour vous, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Alors, juste ce que tu expliques là, en fait, un tube granule qui est terminé, on peut faire la même chose et on obtient que ça.
Alors, effectivement, j'ai quelques éleveurs bio qui sont avec un tube de pulsatilla qui date de Mathusalem. Ils ont mis un granule dans la litre d'eau il y a 30 ans et ils continuent à diluer leur bouteille. Bon. Je suis pas sûre que voilà, je ne dis, voilà.
Ouais, plus c'est diminué, plus l'information est forte.
Hein. Non, mais l'information est là. Le tube est terminé. C'est...
En théorie, oui.
Voilà.
Voilà. Alors maintenant, il y a cette théorie. Maintenant, moi, vous êtes ouvert à toutes ces choses puisque vous êtes là. C'est que vous avez une demande, Et moi, j'ai affaire à des gens. Dans ma clientèle, ou parfois dans des clientèles où je travaille, qui n'ont pas eu cette ouverture d'esprit, qui n'ont pas eu ce cours. Donc moi, je pars du principe que plus l'animal est gros, ou plus le troupeau est grand, ou le lot d'animaux est grand, et plus je vais monter le nombre de granules. Parce que psychologiquement, pour eux, c'est plus facile à comprendre. Si je vais soigner un taureau charolais qui pèse 1,5 tonne, avec un granule, le mec, il va me dire, cette fois-ci, la mère entrait, ça y est, elle est bonne pour l'asile. On avait bien entendu dire qu'elle était folle, mais à ce point-là, donc je vais lui dire, tu vas prendre 10 granules ou 15 granules et tu vas les donner 2 ou 3 fois à ton taureau.
Avec 1, ça suffit. Ouais.
Mais avec 1, ça suffirait.
Psychologiquement, c'est bien pour eux de donner.
Et psychologiquement, donc c'est pour ça que
temps, c'est important.
Mais
c'est important. Psychologiquement, pour eux, d'être convaincu de gros faire, parce que tu peux donner le meilleur prénom du monde et être convaincu du contraire, ça marchera.
Voilà. Donc ce que je vous dis, moi, pour votre troupeau de bestioles, les 50 poulets, les 100 lapins, les 200 dindes, les 50 cochons, les machins, en général, moi, ce que je dis aux gens, vous prenez un tube granule ou un demi-tube granule et vous diluez dans 1 litre ou 1,5 litre. Et à ce moment-là, vous avez quand même quelque chose dans les mains, quoi.
Ouais. Et puis, surtout si vous devez le faire faire par quelqu'un,
ça rassure.
Ça rassure, hein. Et je suis désolée, mais un tube granule, ça coûte 2 euros. Vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes à 2 euros près. Il ne faut pas exagérer non plus, parce que dans un tube, il y a 90 granules. Hein. Et vous n'aurez pas le temps de les vider dans votre vie si vous les utilisez. Voilà. Et surtout, vous n'allez jamais surdoser en mettant la moitié du tube ou un tube complet. Hein. Et déjà sur une dilution, comme tu l'as évoqué ce matin. Donc moi, de ce point de vue-là, et je vous jure que franchement, tous mes éleveurs, que ce soit mes élèves, que ce soit mes éleveurs qui font comme ça, qui se servent des tubes granules ou des demi-tubes granules ou de la dose, en fonction de ce que je leur dis, il est dilué dans 1,5 litre d'eau, ça marche très bien. Donc ne vous prenez pas la tête à compter un granule pour rien, pour voir si ça marche. Hein.
Une question justement, oui, par rapport aux granules et aux humides.
Alors, ça vient.
Ah, c'est sollicité.
Ouais. Non, mais je donne cours depuis longtemps, donc vous connaissez un peu les questions qui viennent. Et puis, Donc voilà pour Korsakoff. Donc la dynamisation, je vous ai parlé. L'isothérapie vaccinale extemporanée. Extemporanée, ça veut dire au moment même. La dynamisation, voilà, la petite photo, hein, parce que vous m'avez demandé des images. Je vous en ai, hein.
Les images diplômes. Juste pour revenir, la Korsakoff, là, on trouve... qui est-ce qui fait selon la méthode? C'est Boiron qui fait selon cette méthode. Ouais. Il n'y a que...
Bah pour l'instant, oui.
D'accord.
Et la biodynamie, là-dedans, c'est la même chose?
Ah non, non, ça n'a rien à voir.
Oui,
c'est aussi. Mais la biodynamie, ce n'est pas Hahnemann, c'est Steiner. Et Steiner, c'est l'anthroposophie. Donc c'est encore une autre méthode homéopathique, mais qui n'a absolument rien à voir avec l'homéopathie hahnemannienne. Les dilutions, ça va souvent être des DH. Le laboratoire qui détient le monopole de l'anthroposophie, c'est Velleda, qui vend des unitaires et des complexes à base d'homéopathie anthroposophique. Dans le mot anthroposophique, il y a le mot anthropos, c'est l'homme. Et moi, je ne me suis jamais penchée sur le problème parce que c'est encore compliqué. Puis ça va encore...
Se pencher sur l'homme, c'est complexe.
Bah, disons que... voilà. Et non, ça, pour moi, je n'arrive pas à accrocher. Donc autant je comprends qu'il y en ait parmi vous qui préféreront l'aroma, la phyto, l'homéo, machin, autant moi, l'anthroposophie, j'arrive pas à accrocher. Alors la biodynamie, c'est une philosophie, donc avec effectivement des règles, avec les rythmes circadiens, la lune, les lunes ascendantes, les lunes descendantes. Alors, la lune ascendante et la lune descendante, ça n'a rien à voir avec la pleine lune et la nouvelle lune. Vous pouvez avoir une pleine lune en lune ascendante et une nouvelle lune en lune descendante ou l'inverse. Donc, c'est encore très compliqué. Donc, il y a des calendriers avec tout ça, avec des dates auxquelles on plante les légumes racines, auxquelles on plante les légumes feuilles, auxquelles on déterre, auxquelles on enterre. Enfin, c'est tout à...
Même pour des opérations, pour des choses comme ça aussi.
Voilà. C'est vraiment très complexe. Ceux qui travaillent là-dedans, comme ça, ont des très bons résultats. Enfin, c'est ce qu'ils disent, en tous les cas. Et ils sont intéressants. Hein. C'est pas du tout, je ne remets pas du tout en cause. Et moi, personnellement, c'est bon. Une fois que j'ai eu fait tout ce que j'ai fait, j'ai dit, maintenant, je continue à me former. Je continue à aller à des séminaires de méo, d'aroma, de phyto. Je continue à travailler sur le métabolisme des animaux, les maladies, etc. Mais là,
la génialité, vous ne le sentez pas?
Bah, moi, je n'ai pas le courage de m'y mettre.
Bah, c'est pas le courage. Est-ce que vous pensez que ça marche?
Ah oui, oui, si, je pense que ça marche. Je pense que ça marche même très, très bien.
En viticulture?
En viticulture, ils sont très, très contents. Et des vins en biodynamie, on le sent. Quand on les boit, on sent vraiment la différence. Donc, si, ça marche très, très bien.
Il y a l'effet placebo aussi qui marche. Pas.
Alors, on y vient, l'effet placebo. J'ai tout ce qu'il faut.
C'est l'information.
Oui,
ah, c'est ça. Alors donc ici on revient donc sur les voies d'administration, mais bon, on en a parlé ce matin déjà. Hein. Bon, dans le temps il existait une voie injectable pour certains remèdes homéopathiques, mais cette voie est maintenant supprimée pour des questions d'AMM. Boiron n'a plus souhaité déposer les AMM pour les injectables. Par contre, les anthroposophes, donc l'homéopathie anthroposophique, les médecins anthroposophes utilisent la voie injectable. Mais elle est réservée aux médecins. Alors voilà les granules, les globules, les solutions buvables et les solutions injectables. Alors, les granules. Les granules, ce sont les grands tubes avec les grosses billes dedans. Mmh. Alors, je ne sais pas si j'en ai là, normalement une. D'habitude, j'en ai au moins un de chaque. Ici.
avant que je te prenne, je suis encore tout à fait mort.
Pour le désherbant, tu peux essayer et tu risques rien. Tu viens voir 15 jours après, s'il y a toujours autant d'herbes, c'est que ça va pour marcher.
Alors, ça, ce sont les tubes gratuits. D'accord, vous connaissez, je vais vous les faire passer. Vous tournez, vous récupérez des granules. Ok, donc ça vous connaissez les granules. Hein, ouais. Ensuite, vous avez les tubes de globules, espèce de globules. Ça, c'est les globules. Donc là, ça s'appelle une dose.
C'est ça dedans,
c'est non. Alors, c'est des microbilles.
C'est des microbilles, ouais. C'est ce qu'on est.
Ça, tu prends une fois.
Contre le rhume.
Alors, il y a un remède que vous connaissez tous qui est présenté comme ça, c'est le fameux oscillococcinum.
Ah, tu peux prendre des granules.
Vous voulez les voir ou vous les connaissez ?
On les connaît. Enfin,
vas-y.
Non, pardon. Tout le monde ne connaît pas. Oui, si vous voulez.
Les granules.
Donc le remède que vous connaissez, qui est toujours présenté comme ça, c'est l'oscillococcinum.
Pourquoi il est présenté comme ça?
Ça sera plus rapide.
Moi, je le prends en 30 CA, je prends.
Et pourquoi?
Ça sera plus rapide, non, que l'oscillococcinum est comme ça, non?
Alors oui.
Pour que l'information arrive direct.
Voilà. Le dos va avoir. Oui, alors attendez. Restez calme, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Les doses globules, on les prend quand c'est aigu. Ça va avoir une action flash et ça va agir de façon un peu plus continue. On ne devra pas renouveler l'administration. Les granules, on va prendre 3, nous les humains, 3 granules, 2 ou 3 fois par jour, ça va toujours avoir des actions plus courtes. Donc ça c'est pareil, ce sont des théories. Après, si vous n'avez que des globules et que vous venez de vous cogner, ben vous prenez vos globules. Si vous n'avez que des granules et que vous venez de vous faire piquer par une guêpe, vous prenez vos granules. Vous voyez, il faut arriver aussi à être un peu souple comme ça. Hein.
Mais quelque part, il faut préparer l'humain quand vous faites votre médecine. Là.
Préparer l'humain, ça veut dire quoi?
La psychologie.
Ah ben ça, c'est ce que je fais depuis ce matin.
Hein. Non, si la personne...
Mais il y en a qui sont déjà convaincus.
Ouais. Non, mais si la personne n'y croit pas...
Alors justement, si la personne n'y croit pas, moi je ne vais pas la violer pour qu'elle y croit. Non. Maintenant, moi j'ai des éleveurs, si vous voulez, qui n'y croient pas, qui ne savent absolument pas ce que je fais. Donc moi j'ai des techniques, je leur dis voilà, tu fais ça, le mec il fait, et puis après il est là,
voilà.
Et il me rappelle, ou il m'appelle, les copains du coin me rappellent en disant, voilà, si vous voulez,
en Haute-Marne ça aurait fait, man, c'est dans le poil, et dans le même ça fait,
Et est-ce que 10 granules font une dose?
Alors c'est ce qu'on dit en général, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, si tu veux, au niveau de l'imprégnation, ici, 10 granules, la surface, si tu étales la surface de tes sphères, sera inférieure à si tu étales la surface de toutes tes petites billes.
Il faut en prendre combien? Parce que des fois, quand on veut une action immédiate et qu'on n'a que des... Oui. C'est ça combien il faut en prendre, 20?
En général, 15, 10, 15, ça marche aussi. Mais ça ne va pas être aussi puissant aussi.
Non, mais quand on n'a pas. Je pense à des coups, des choses comme ça.
Ouais. Voilà. Bon.
Et toi, tu vas prendre 15, 20.
Oui, voilà. C'est ce que j'allais expliquer après.
10 granules, un globule, enfin une dose.
Alors, le fameux oscillococcinum. Qui est donc n'est vendu que sous forme de tube comme ça, de petites doses de globules. Ça marche super bien quand vous avez déjà un problème infectieux dans vos animaux. Type un virus qui passe avec des animaux qui éternuent, qui toussent, qui ont la chasse, genre grippe quoi. Hein. Que ce soit des porcs, des volailles, des lapins, des moutons, des chèvres, des vaches, n'importe quoi, ça marche. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, je ne donne pas, bien sûr, un tube globule à chaque bestiole, parce que quand vous avez un troupeau de 150 vaches, ça douille. Hein. Donc je dis aux gens, vous achetez une boîte de 10 ou 12, je ne sais plus combien il y en a dedans, vous prenez une bouteille d'un litre et demi d'eau, type cristalline, tout simplement, une source basique, hein. Vous mettez tous vos tubes globules dedans, l'un après l'autre, vous agitez bien tout ça, et après vous répartissez ça sur 3 jours. Donc 500 ml par jour pour le troupeau. Donc les 500 ml, on les redilue dans 1 ou 2 litres d'eau ou 3 litres d'eau en fonction du cheptel qu'on a à soigner. Les vaches, c'est facile parce qu'on leur pulvérise sur le mufle, comme tu l'as expliqué. Les porcs, on leur met dans la soupe. Les volailles, bah, vous le faites passer dans la pompe doseuse, 1 litre pour 1000 litres. Et ça marche super bien. C'est ça marche super bien.
Et si on les met dans une cuve, est-ce qu'il faut brasser l'eau? Est-ce qu'en brassant l'eau, on va encore augmenter l'efficacité?
Oui, oui.
Et sur les vaches, c'est quoi le pulvérisé?
Sur le nez.
Sur la mufle.
Ouais. Sur le mufle.
Et dans le presque leur denu, mais avec deux.
Moi, j'ai un premier
Oui, bah tu le mets dans ton bac. Voilà.
Dans mon bac, mais mon bac, il va pas être consommé dans les trois
jours. L'important,
c'est qu'ils en mettent quelques jours
après. Voilà, exactement. Tu vois là, sur mon téléphone portable, j'ai encore un texto là. La fille, elle a eu un passage de grippe sur ses porcs. C'était il y a un mois. Qu'elle a eu un passage de grippe. Elle a donné des remèdes au méo, mais ça ne fait pas top. Elle me demandait ce qu'elle pouvait faire. Internet, oscillococcinum. Alors bon, elle a suivi les cours. Elle m'a dit, on utilise la technique du mixémie. Elle m'a remis un texto trois jours après. Elle m'a dit, c'est nickel. Vous voyez, c'est ça. Pour un troupeau de vaches, la boîte d'oscillococcinum, c'est pas cher. Hein, par rapport à tout ce que vous pourriez imaginer comme traitement. Et en plus, vous avez les animaux arrêtent de tousser, arrêtent d'avoir la diarrhée.
Ils refabriquent leur anticorps eux-mêmes, voilà. Ça aussi.
Ils se remettent, etc. Quoi. Et il y a moins de ces liens.
Là, la culture, mais c'est pas ça. Oui, c'est la même chose. C'est pour la grippe, c'est le cytocotinol qu'on prend. Puis la dose de.
Qu'est-ce qu'on fait?
Le cytocotinol.
On craint peur.
Je crois qu'on s'est bien compris.
Ils vont faire fallait comme l'argent va à l'argent. Ouais. Tu coupes la pompe.
Des solutions qui sont buvables. Donc vous avez des solutions buvables qui se présentent soit sous forme d'ampoule buvable, comme celle-ci. Alors ça c'est un complexe, hein. Donc ça vous ne trouverez pas d'unitaire à la pharmacie sous forme d'ampoules buvables. Ce sont des complexes, par exemple Tromacédine, qui contient de l'arnica, du Bélis pérennis, de l'hypericum, du rustox et du lédoc. Donc ça marche très bien contre les coups, mais ça marche aussi contre les chocs même un peu émotionnels parfois. Vous voyez, même sur un... Quand on a séparé des lots, etc. Enfin, bon. Après, vous avez des solutions buvables qui se présentent sous forme tout simplement une bouteille avec un machin comme ça. Et ça existe aussi après en litres chez Guaran. Ce sont des complexes. Hein. On va parler après. Et dans le temps, on avait des injectables. Ça n'existe plus, en tout cas, de façon courante. Et donc, les remèdes sont identifiés. Vous voyez, c'est marqué dessus, comme sur le port salut, le nom du remède et la dilution. Donc, dans les tubes granules, c'est facile. Chez Boiron, le bleu, c'est le 9. Le rouge, c'est le 7. Le vert, ça peut être le 5. Voilà, le 5, et ainsi de suite. Hein?
Coccinum.
Coccinum.
Coccinelle.
Alors, il y a les fameuses doigts de base, donc la similitude, je vais vous en parler. L'infinitésimale, donc c'est la dilution. La dynamination, je vais vous en parler. Et la similitude, donc c'est ce qui est plus difficile pour vous, c'est de penser que le mal soigne le mal.
Ça, là,
donc, il va falloir trouver des remèdes qui, chez l'animal ou l'homme en bonne santé, donnent des symptômes que vous voudriez soigner chez les animaux malades. Donc, si vous avez un animal qui a une diarrhée verte, ou jaune avec des petits points verts, comme une omelette aux fines herbes, bien, il y a un remède qui s'appelle camomilla, qui, si on intoxique quelqu'un avec du camomilla, mais à basse dose, hein, pas fumé, eh bien, il aura une diarrhée jaune avec des petits points verts. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que ça marche, en fait. On choisit les remèdes en fonction de ça. Mais il y a une règle pour choisir les remèdes. Et donc ça, je vous laisse tomber ça. Donc la pathogénésie, c'est ça. C'est l'ensemble des symptômes produits chez l'homme ou l'animal en bonne santé par une subintoxication par le remède. Donc après ça, je laisse tomber. Alors ici, je vous ai mis ça pour que vous voyez l'histoire des dilutions. Donc 4CH, c'est une goutte de la substance de produit actif initial dans une piscine de jardin. Et 30 CH, c'est une goutte dans un milliard de milliards de milliards de milliards de fois plus d'eau de tous les océans de la planète. Alors, j'ai pas fait les calculs, j'ai téléchargé ça sur Internet pour vous donner une idée de ce que c'est dilué, quoi. Alors ça, c'est Louis Ray, là, c'est un conseiller, il était conseiller scientifique des laboratoires Boiron. Il est décédé, ce monsieur, mais il a fait aussi beaucoup de recherches sur l'homéo. Et il dit, il est aujourd'hui fondé de dire que la préparation de dilution homéopathique par dilution et dynamisation provoque des changements permanents importants dans le liquide de départ, même lorsque la concentration théorique en substance dissoute est devenue non mesurable. Vous voyez, il était quand même dans Malsup, docteur en sciences, biologie physico-chimique. Bon, c'était pas quand même le dernier des crétins, quoi. Donc la dynamisation, je vous en ai parlé. Et les deux autres principes, ça va être la loi de Trétier et la loi de Hérimé. La loi de Trétier, ça va être le fait qu'il faut toujours au moins trois symptômes. Alors, pour choisir un remède. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de diarrhée jaune avec des petits points verts. Ben, je vous ai dit, c'est camomilla. Oui, c'est un des symptômes de camomilla. Mais si je veux prescrire camomilla avec de la certitude, il faudrait que je rajoute à ça une hypersensibilité type algie dentaire et, par exemple, des cris de colère améliorés par la consolation et, si possible, transportés en voiture. Alors, vous allez me dire, elle est complètement pétée, là. Je vais mes poules, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir les transporter toutes en voiture. J'en ai 100 000 dans mon exploitation. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un symptôme local, la chiasse. J'ai pris un symptôme général, les douleurs dentaires. Et j'ai pris un symptôme aussi, la colère. J'ai pris trois symptômes. Là où ça marche très bien, c'est sur l'enfant qui fait ses dents. L'enfant qui fait ses dents, il a mal aux dents. Il a des douleurs qui sont difficilement compatibles avec quelque chose de détendu. Il hurle. Et quand on prend dans les bras et qu'on le balance, il s'apaise. Ou alors on le met dans la voiture, on fait pas de tour du quartier de maison et il se calme. Et en plus, souvent, il a une diarrhée jaune verdâtre avec parfois des petits points dedans qui ressemblent à une omelette aux fines herbes. Et là, vous lui donnez camomilla et ça se calme instantanément. Que ce soit les douleurs, les hurlements et la chiasse. Vous avez agi sur les trois tableaux. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, les poules, savoir si elles sont mal aux dents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne peut pas trouver des symptômes aussi, parce qu'on a des animaux qui ne manifestent pas beaucoup de symptômes psychologiques, on va aller voir les symptômes généraux. Donc, les symptômes généraux, notre ami tout à l'heure, il nous a décrit, ils sont prostrés. On a l'impression qu'ils grelottent, qu'ils sont frigorifiés, ils perdent un peu l'équilibre. Voilà, ça c'est des symptômes généraux. Et ensuite, ils ont des symptômes plus locaux, type des diarrhées, des crachats, des mouchages, des plaies, des choses comme ça. D'accord? Donc vous allez plus partir sur ce genre de symptômes. Si vous ne trouvez pas du tout de symptômes généraux, vous prenez trois symptômes locaux. Hein? Donc les remèdes vont être choisis comme ça. Alors, je vous ai dit ce matin en préambule que vous allez partir frustré parce que on n'aura pas le temps d'étudier beaucoup de remèdes. Hein. Alors, la loi de Hering, elle permet de faire sortir une maladie pour éviter de l'éteindre. Éteindre, c'est mettre le sparadrap sur la loupiote du tableau de bord. Sortir, c'est faire ce qu'a fait ma consoeur avec son sulfure 30CH qui m'avait fait sortir tous les boutons du chien, mais sauf qu'elle s'y était prise un peu trop violemment. Et donc le chien avait explosé en vol. On peut faire sortir plus délicatement que ça.
T'as pas pris le photo.
Ah oui, il aurait fallu.
Voilà.
Sauf
avant, que là, après. Ici, quand vous avez une éruption de bouton parce que vous prenez des médicaments et que la dose est trop forte, vous faites une intolérance aux médicaments et c'est un effet secondaire. Alors qu'ici, on n'est pas sur un effet secondaire, on est sur un nettoyage induit par le remède. Et c'est ce nettoyage qui va être salutaire. Et voir, vous allez retourner dans le temps. C'est-à-dire, vous allez remonter le temps. Donc, le premier exemple que je vous donne, c'est l'eczéma de l'enfant qui se transforme en asthme si on se contente de traiter à la cortisone. Vous avez un gamin, il a de l'eczéma, qu'est-ce qu'on fait? On tartine de la cortisone dessus. La cortisone s'en va. L'eczéma s'en va. la cortisone aussi. Mais 2 ans après, il fait de l'asthme. Qu'est-ce qui est plus grave, l'eczéma ou l'asthme? Ben, l'asthme. On peut mourir d'une crise d'asthme, c'est rare qu'on meure d'une crise d'eczéma. Hein? Mais il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui préfèrent que leur enfant ait de l'asthme plutôt que de l'eczéma. Je l'ai entendu à la caisse du Leclerc. Hein? La femme de, les deux femmes de moi discutaient de ça, et il y en a une qui dit bah, non, ton gamin il n'a plus d'eczéma. Et l'autre qui lui dit bah non, je lui ai fait donner un traitement de cortisone. Alors là, il dit, mais ça donne de l'asthme, ça pourrait lui donner de l'asthme. Ah oui, mais l'asthme ça ne se voit pas.
Oh putain.
Donc ça déjà, c'est sûr.
Mais les parents sont grands.
Oui, on peut soigner les deux.
C'était quoi la marque du portable?
Et comment soigne l'asthme?
Un peu d'eczéma, c'est pas vraiment.
Et comment soigne l'asthme alors?
L'eczéma. Les œufs de caille.
Ça va plus. Déjà, les œufs de caille, voilà, déjà c'est
bon. En business, ça faut y aller là.
Et après, bon, après, ça dépend, parce que je vous ai dit qu'il fallait
traiter le terrain.
Des symptômes psychiques, des symptômes généraux et des symptômes locaux. Et dans le cadre d'un bébé qui vient de naître ou qui a 2 mois ou 3 mois, il faut tenir compte aussi
la
grossesse de la mère.
Et d'abord la grossesse.
Et de l'endroit où habitent les parents. Et de ce que fait le père, et de l'endroit de la grossesse de la grand-mère, vous voyez, ça devient compliqué. Je ne peux pas vous donner un traitement bateau là tout de suite. Alors, sachez quand même que la cortisone, c'est le médicament, et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est notre professeur de médecine qui nous l'a expliqué à l'école vétérinaire, le médicament qui permet aux malades d'aller à pied jusqu'à la salle d'autopsie. Ça efface tous les symptômes.
Et bonhomme avec.
Le médicament allopathique par excellence qui passe tous les symptômes et vous avez l'impression que vous êtes guéri et en fait en dessous la maladie continue à couver. Hein. Alors pour vous parler de la loi de Hering aussi, c'est l'exemple d'une patiente, pas à moi mais à un collègue qui était kiné, ostéo, et la maman elle vient le voir pour une dépression nerveuse. Elle en était à 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans de médicaments pour la dépression, elle était toujours aussi pétée, aussi mal. Donc elle vient voir, et alors il lui fait un soin, donc c'est pas de l'homéo, c'est de l'ostéo, mais le principe est le même, on fait sortir. Et elle revient après à moi, pour la deuxième séance, et elle lui dit, ah, mais je vais beaucoup mieux. Sauf que j'ai la langue bleue. Alors bleu, je trouve. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait. Ah bon. Il refait un deuxième soin, la bonne femme s'en va, un mois après elle revient. Parce que bon, les dépressions, c'est long. Hein. Il faut pas voir. Hein. Et elle lui dit, bah oui, je n'ai plus la langue bleue, mais je l'ai jaune. Alors, jaune citron. Hein. Et puis, on a des petits flashs comme ça qui arrivent. Il dit, mais quelle couleur les comprimés que vous avez pris Eh bien, elle a éliminé les couleurs de comprimés dans l'ordre inverse de ce qu'elle a pris. Au fur et à mesure des séances, alors c'est passé bleu, jaune, vert, elle a eu le rose, de l'orange... Elle a éliminé comme ça les couleurs, les colorants des comprimés au fur et à mesure. Donc elle est remontée dans le temps. Donc ce qui peut arriver aussi, c'est que vous avez eu une pathologie quand vous aviez 15-16 ans, et quand vous en avez 30 ou 35, vous avez un truc, vous êtes soigné par l'homéo, par l'ostéo, et vous refaites la maladie que vous avez eue il y a 30-35 ans. Mais c'est pour la finir, c'est pour l'éliminer. C'est pas la séance qui a provoqué la maladie, c'est le corps qui arrive enfin à se débarrasser du truc. Vous voyez, une cystite, par exemple, ou des choses comme ça, ou des boutons, ou des gratouilles qui arrivent, ou des choses comme
bien
ça.
Bon.
Donc on n'est pas sur l'effet secondaire, comme là, l'urticaire provoqué.
Alors, si on commence l'homéopathie à 50 ans, on peut se faire à 100 ans être guéri.
Je te dis pas aucune... les couleurs.
Il n'y a aucune médecine qui guérit tout le monde de tout. Ça n'existe pas. Oh, et par ailleurs, la vie, c'est une évolution permanente. Donc l'état de santé, peu importe la technique qu'on utilise pour se soigner, que ce soit une technique homéo, ostéo, phyto, aroma, psychosomatique, n'importe quoi, vous avez, ici vous avez le temps qui passe, et ici vous avez l'état de santé.
Et la fin qui est mort.
Ce qu'on espère, c'est mourir guéri.
En bonne santé.
L'idéal, c'est ça. D'accord ? L'idéal, c'est que l'état de santé, en fonction du temps qui passe, à partir du moment où vous commencez votre traitement ou votre remise en question, aille comme ça. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Au début, vous allez avoir du mieux, du moins bien, du mieux, du moins bien. Et progressivement, quand vous allez avoir débarrassé votre organisme des gros trucs, des grosses merdes, vous allez commencer à aplanir un peu la courbe, avec de temps en temps, vous voyez. C'est comme ça que ça évolue. C'est comme si vous marchiez sur un fil avec une perche pour maintenir l'équilibre. Vous allez sans arrêt aller à la recherche de cet équilibre. Mais il y a des moments où vous allez louper un pas et vous allez faire ça. D'accord ? Vous souhaitez. Merci. Ou alors vous faites du vélo. Vous savez bien, quand vous faites du vélo, vous balancez sans arrêt de l'un à l'autre. Si vous êtes tout droit, c'est tant mieux, mais vous serez mort. Hein. C'est le principe du yin et du yang qui se transforment sans arrêt l'un dans l'autre. C'est une recherche d'équilibre en permanence. L'équilibre parfait, c'est la mort. Donc le jour où vous aurez atteint l'équilibre parfait, vous mourrez. Ou alors vous avez atteint le déséquilibre parfait aussi, hein, ou l'équilibre imparfait. Voyez. Mais de toute façon, on oscille en permanence autour d'une droite. On n'est jamais pile poil dessus. Donc c'est pour ça que aussi on peut avoir, par exemple, pendant 5 ans ou 10 ans, un élevage qui va bien, et puis un jour avoir un pet, quoi. C'est pas grave. C'est-à-dire, c'est la seule chose que ça a de positif, c'est que ça va vous obliger à réfléchir et à vous remettre en avant. Donc, les épreuves sont faites pour nous faire grandir, pas pour nous faire chuter.
Ce qui est important, c'est de se relever.
Ouais. Quand vous êtes au fond de la piscine, vous poussez sur le fond et hop, vous remontez. Après, il y en a qui disent, on croyait qu'ils avaient creusé très profond, mais ils ont encore trouvé moyen d'aller encore plus bas. Hein.
On pense à Hollande. Il n'a pas trouvé de pétrole.
Donc, voilà. Alors, dans les différents modes de l'utilisation de l'homéopathie, vous allez avoir le drainage, dont on a déjà parlé ce matin, donc pour nettoyer l'organisme. Donc, chaque fois que vous allez avoir eu un animal ou des animaux qui ont eu soit une maladie, soit un déséquilibre alimentaire, un changement d'alimentation, ou qui ont dû prendre des médicaments allopathiques pour une raison ou pour une autre, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un drainage. Donc ce drainage va nettoyer l'organisme en restimulant l'organisme pour remettre en route le foie, les reins, les intestins, etc. pour éliminer les toxines. En sachant que la meilleure voie d'élimination des toxines, c'est encore toujours l'intestin et les urines, la peau et les poumons ne venant qu'en deuxième. Parce qu'avoir des boutons, c'est quand même vachement désagréable. Et avoir de la toux, c'est pas très agréable non plus. Mais ceci dit, il faut que ça sorte. Donc, on ouvre les émonctoires. La méthode suivante, c'est de répertoriser. Alors, répertoriser, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, comme vous l'expliquait notre ami là-bas au fond. Il faut poser beaucoup de questions à ces animaux. Et il faut trouver les remèdes qui vont avec ces questions. Donc, il existe des livres.
C'est quelle plante qui permet de faire du drainage ?
Je vais vous en donner deux ou trois après. La répertorisation, pour ça, il existe des livres, ce qu'on appelle des formulaires, des répertoires. Donc on les appelle des répertoires. Alors il y en a d'autres, hein, mais moi je me sers toujours de ceux-ci. Les répertoires de Kent. Donc il y en a un petit et un gros. C'est comme Laurel et Hardy. Dedans, vous allez avoir tous les symptômes possibles, imaginables, qui sont repris avec les remèdes qui vont avec. Alors, par exemple, callosité, voire corps, les corps, hein, comme les corps pieds, sur les mains, voire dureté des mains, et vous avez une série de remèdes. Vous voyez, bon, c'est pas évident parce qu'il faut quand même arriver d'abord à mettre des noms sur les symptômes que vous voyez, et ensuite à les caler au bon endroit, et il faut un peu connaître les remèdes parce qu'il y a parfois pour certains symptômes, il y a 50, 100 remèdes. Après, il faut quand même savoir, je vais vous laisser passer le bouquin pour que vous puissiez juste jeter un coup d'œil. Il y a des remèdes qui sont marqués en gras, ce sont les plus importants, ceux qui marchent le plus souvent. Et puis il y en a qui sont en italique, c'est un peu moins souvent, et en tout droit, c'est encore un peu moins souvent. C'est des degrés d'efficacité. Donc pour travailler comme ça, il faut quand même un peu savoir, il faut un peu connaître, et ça prend du temps. Donc
Ça, c'est pas tous les jours dans votre exploitation que vous allez pouvoir commencer à répertoriser. Mais malgré tout, ça peut aider. Moi, par exemple, m'en sers de temps en temps. Alors, je vous fais passer les deux. Donc, globalement, c'est le même genre de livre. Donc, c'est organisé par section. Vous allez d'abord avoir le psychisme, ensuite toutes sortes de parties du corps, et finalement les généralités. Alors, vous continuez à l'écouter quand même, parce que sinon, on n'avancera pas. Ensuite, vous avez d'autres livres qui s'appellent les matières médicales. Les matières médicales, c'est l'inverse du répertoire. Au lieu de vous donner des symptômes avec des remèdes, on vous explique les remèdes. Ce sont des dictionnaires qui contiennent les remèdes. Donc vous en avez des humains, qui peuvent marcher aussi chez les animaux, hein, et vous en avez des vétérinaires. Donc vous allez avoir, par exemple, le Sambucus nigra, qui est le sureau. On va vous expliquer à quoi ça peut servir et comment l'utiliser. Vous avez Pulsatilla, qui est un grand remède, etc. Donc ça, ce sont des dictionnaires qui contiennent les remèdes avec les explications. Donc vous avez deux solutions. Soit vous travaillez avec le répertoire, soit vous apprenez les dictionnaires de remèdes par cœur. Tout de suite, ça les met à l'aise. Donc, sachez quand même qu'il y a, je ne sais plus combien de remèdes, il doit y avoir 2500 remèdes. Un super, super pro de l'homéopathie va servir de 600 remèdes. Un moyennement pro d'homéopathie comme moi va servir de 150-200 remèdes. Et un éleveur comme vous, avec 20-25 remèdes, il en a assez. Donc, quand je donne des cours sur plusieurs journées, je fais un répertoire. Je fais une matière médicale à l'usage de mes élèves avec une vingtaine de remèdes qu'ils peuvent utiliser dans à peu près toutes les circonstances. Et s'ils ne s'en sortent pas, c'est allô, Verena, Bobo, j'en sors pas. Hein. Et voilà. Donc, et
on ne peut pas avec des mots-clés arriver à trouver...
Ah si, justement. Alors, il y a effectivement, dans les remèdes, il y a des mots-clés, des symptômes-clés, des keynotes. C'est ceux-là qu'il faut retenir. Il faut quand même les apprendre. Hein. Donc, moi, j'expurge la matière médicale, je laisse, par exemple, l'arnica, au lieu d'avoir 5 pages, il n'y en a plus qu'une demi, avec les mots-clés, et donc comme ça, ça marche. Ensuite, vous avez des livres comme celui dont je vous ai parlé ce matin. Par exemple, celui-ci, c'est l'homéopathie pour les ruminants. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on a des poules, c'est pas des ruminants, on a des cochons, c'est pas des ruminants. C'est pas grave, parce qu'une diarrhée, c'est une diarrhée. D'accord, une poule, ça ne vomit pas, mais une vache non plus. Donc il y a toujours moyen de trouver quand même. Oui, et là, c'est les maladies qui sont mises en avant avec les remèdes qu'il faut donner. Donc par exemple, vous avez l'appareil locomoteur. Ça peut intéresser les volailles comme ça peut intéresser n'importe quel autre animal. Si l'animal semble abattu avec de la fièvre, suite de traumatisme ou plaie pénétrante, suite de soignement récent malodorant avec des gerçures et de la sensibilité locale, donc ça pourrait par exemple être les pattes des poulets qui sont abîmées. Si sécrétion persistante ou de mauvaise odeur aux abords de la plaie, etc. Et vous avez un, deux ou trois remèdes avec la dilution qu'il faut utiliser. Donc je vous laisse passer celui-là. Et comme vous êtes en train de tout regarder, je vais vous faire passer aussi les huiles essentielles pour que vous puissiez vous faire un peu plaisir à les mifler.
Une fonction, je suis sûr.